Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble pour des lectures en liberté et la suite du récit de Jacques Josse, Café Rousseau. Rousseau se tait, reprend souffle et salive. Sa respiration s'avère très saccadée. Les mains crochent dans les draps. Inizan observe la scène. Il y gobe de l'émotion. Dans la pénombre, la gueule d'ivrogne de l'ancien marin devient presque belle, oscillant entre le pourpre et la cendre. Au milieu, sa truffe de vieux boxeur sonné monte la garde. Dessous, la moustache rebelle, en perpétuelle bataille contre on ne sait quoi, lui procure l'allure d'un clown hirsute, un Einstein des ports, allumé à coup sûr, naviguant en dernier recours entre les joncs et les roseaux sur une jonque branlante dans les rizières de l'Asie du Sud-Est. Plus haut, au niveau de la barre du front, les yeux plissés s'enfoncent et portent dignement leurs lourdes valises. Ce sont des bougies qui meurent. Pour elle, la bobine du film crépite désormais en intérieur. Dans la caboche d'un homme agrippé à de tremblantes croisées de mémoire, ce qui l'empêche de temps à autre et maintenant d'adresser la parole à son serviteur, Inizan, ami et prêtre à la fois, pauvre parmi les pauvres, adepte du rien, détective privé sur la langue, confesseur de brise à 16 heures et relieur d'âme à la petite semaine. Rousseau roule, se retourne. Rousseau allume des feux de broussailles sous ses paupières, et des hélices, des cuivres, des lampes rutilantes. Un essaim de veilleurs des solitudes passe devant lui. Pipe au bec, barbe d'écume, casquette vissée sur le crâne, tous les membres de sa confrérie se comprennent à demi-mot. Tous débitent dans la sobriété du début de nuit un requiem pour ce marin qui meurt, en exil de lui-même, sur un lit de fer forgé à 200 mètres de l'eau dans une maison solidement accrochée sur les falaises du Goëlo. Il les regarde, les écoute. Il leur parle à distance, les cajole, les dorlote. Messieurs, la messe semble dite. L'infirmière vient de me mettre sur pilote automatique. Nous accosterons dans une plombe ou deux. L'abbé ne prête nulle attention aux courtes divagations du dormeur. Il dévisse au contraire une nouvelle burette d'alcool et s'en asperge le palais avec un plaisir non dissimulé. Délire, mon vieux. Délire tant que tu veux, mais le moment venu, n'oublie pas de remettre ton âme entre mes mains. Soupire-t-il en s'essuyant les lèvres. Le cafetier ne l'entend pas, ne peut plus l'entendre. Une vapeur invisible s'éloigne de la chambre. Le murmure clérical s'évapore. Aucun son ne lui parvient. Il emprunte un escalier en spirale. Il descend de plus en plus, s'agrippe à la rampe. Des ombres noires l'accompagnent. Cet escalier mène 6 pieds sous terre, claironne une voix. Alors, il largue les amarres. Une à une, les cordelettes tombent à la mer. Il tangue, il bouge. Il se tient debout à côté de ses pompes. Il croise au large des îles. Il se dirige vers le golfe de Gascogne. Après, ce sera le détroit, le sable du Gibraltar, une douceur d'amande, les maisons blanches qui crouleront au soleil. Il se voit, il porte un t-shirt jaune déchiré au niveau des aisselles. Il ouvre un pack de 6 bières. Il est posté à l'avant, les jambes bien écartées pour conserver l'équilibre sur le foutu bateau de sa mémoire. Le ressac clapote. Le miaulement des vagues n'a rien à voir avec les ressorts du lit. Arc-bouté vers l'avant, Rousseau mène sa barque. Il suit le rythme du bois. « Mais voilà, c'est moi. » Je suis Rousseau l'épicier, l'ex-marin, le volumineux tireur de bière, le maître pression de la côte nord. Il croit avoir déjà entendu résonner une telle supplique quelque part, un cantique, du charabia, du vent. Les hommes aiment à s'abîmer jusqu'à se froisser les phalanges en tapant à coups de strophes sur les portes condamnées quand ils ne voient plus d'autre issue à leur déglingue. Ils ricochent de creux en crête. Les mouettes se mêlent à la fête, le sel lui brûle les yeux, le sang saute comme un cabri dans ses veines. À l'instant, la mort se propose pour le prendre en remorque. « Laisse-moi faire, bordel, laisse-moi cornaquer comme les autres » ricane-t-elle en sourdine. Il s'accroche, se cramponne, résiste, il est sûr de lui. Ce voyage peut le propulser au bout du monde, il le veut, l'espère, il est sur le point de signer son bon de sortie quand un bref sursaut de douleur lui fait perdre le fil de ses navigations. Il ouvre un œil, retrouve les craquelures du plafond, aperçoit dans la buée des retours de piste le curé qui farfouille près de lui, les mains enfouies dans une musette entrouverte sur ses genoux. Sans crier gare, la colère le gagne. Il tape du poing sur les draps. « Sache que je ne suis pas encore au bout de mon dernier rouleau » martèle-t-il. Et se disant, il recale l'oreiller sous sa nuque pendant que l'autre, à peine surpris par la méprise du revenant, remet lentement la bonbonne de gnôle à sa place, près des ustensiles d'onction, au fond de la sacoche noire. Moins d'une minute plus tard, un vent léger écorne le demi-sommeil retrouvé de Rousseau. Saupoudré de grésils, de bruine, ce vent gifle le pont du navire. Son chant métallique dévoile ses origines. Il vient de loin, le félin, de la Caspienne ou du Caucase. Rousseau le hèle avec insistance. Il lui tend ses narines. Oh, c'est un sacré burineur de coupe rose. Il désire lui offrir les délices d'une réception en grande pompe, pleine face, le nez grêlé, les lèvres à vif. Il se laisse cingler par ce haleur des glaces, cet expert en cendre bleue, ce vagabond oriental, ce colporteur qui garde de belles brindilles de voyage en chacune de ses failles. Varna, Odessa, Sébastopol, Kherson, Saint-Ferropol. Les noms des ports de la mer Noire valsent dans sa tête. Il descend toujours le même escalier, rejoint sa cabine. 2 mètres sur 3, mur jaune, plafond bas, un sac, une malle, quelques tiroirs, des livres, une photo. Lui, posant bedaine en avant devant le Sailor Rest à Cardiff. Installé au-dessus de la couchette, le hublot transmet à travers une lumière pâle des reflets verts. C'est dans ce genre de réduit que s'est égrené une partie de sa vie sur un bateau ou sur un autre. Dans moins de 2 heures, celui-ci accostera à Istanbul. Il entend déjà la passerelle crier et en écho une autre voix, tout droit sortie du bossoir, répondre à tue-tête « À la proue ! Échelle de pilote ! Remorque sous le vent !» L'escale le met en appétit. Des années qu'il y pose son quintal incar, chancelant dès le premier soir à cause du mal de terre, du café turc, du narguilé, des pipes de hashish, du raki et des amuse-gueules trop épicées. Il doit flâner dans une rue étroite entre la mer et la pension maritime, avec ce cavadias à ses trousses. Inizan fixe les soubresauts rapides et nerveux qui agitent les paupières du malade. Des villes reviennent à la surface. Luanda, Lobito, Durban, le Cap, réminiscence de catéchisme fané. Il imagine les pointes dures d'une Afrique pauvre et incertaine. Il aimerait bien être du voyage, se préparer une embardée, une mission évangélique, par exemple avec pirogue, soutane au vent et chapeau noir d'apparat. Mais soudain, sans un mot, Rousseau s'arrache à ses rêves. Cheveux fous, prunelles rondes, moustache en état d'alerte, il se tient en équilibre sur un coude. Cette brusquerie oblige Inizan à suspendre ses pensées. Il s'arrête tout net, fronce les sourcils et scrute de travers l'ancien marin resté figé dans son extase immobile. « Bon Dieu, Rousseau, calme-toi !»« Je ne décline pas, Inizan, surtout, ne crois pas ça. » Le curé aide Rousseau à se rallonger. Il lui touche le front, remet les couvertures en ordre. Tu vois, j'arrivais au Chat Noir à Istanbul. Inizan sourit. Ça y est. Le voilà qui déménage à nouveau. Il baisse le nez, attend la suite avec indulgence. J'arrivais au Chat Noir à Istanbul et c'est Léna la blonde qui sortait de l'ombre. Léna, la svelte, la sainte, la Notre-Dame des ports, directement descendue de la mosquée bleue pour bénir les épaves et les hommes éponges. En un rien de temps, elle faisait tout pour que tu te croies quelqu'un alors que nous n'étions que des zéros, des minables, des gâchettes rapides. Mais elle procédait avec une telle lenteur, un tel tact, un tel toucher de paume, oui. Du tact, tu vois ? C'est le mot qui convient.
Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas. Et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite apeuré, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup à la tribune de la chambre, dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle pléielle n'écoutait plus, les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre mêla Sébastien Bach et la java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur.
Duc de Reichstadt, avez-vous dit non, non? Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'au prater, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille, on n'entendit plus de java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer.
À nouveau avec Jacques Josse et son Café Rousseau après ce petit temps musical.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Rousseau s'arrête. Reluque Inizan. et d'un bond repart pour Istanbul. Je passe sur les détails, chambre basse, le lit, le robinet, la serviette. Nos agapes ne duraient guère. Hip, hop, musique, valse, musette ou tango, un râle, et voilà tout. On roulait sur le côté, épuisé, étourdi, déglingué, couilles molles, le mât en berne. Léna s'en foutait. Sa mission accomplie, elle disparaissait derrière le paravent, se lavait, enfilait un peignoir, allumait une cigarette, revenait s'asseoir sur le bord du lit. Entre-temps, on s'était ressapé vite fait et on discutait un quart d'heure ou deux. On bavait sur nous, sur nos habitudes de demeurer, sur nos écumes, nos crampes, nos crânes de solitaire s'ingéniant à se fabriquer connerie sur connerie en circuit fermé. On bavait sur nos petites et grandes destructions intérieures parce que nous en avions salement besoin. Tout en parlant, le bavard s'allonge à son aise, pousse un soupir de soulagement, pose sa tête au milieu de l'oreiller et surveille le masque terne de l'abbé. « Une sainte !» répète-t-il. Il prend la main libre du prêtre dans l'une des siennes. Ben, « Cette nuit, Léna peut très bien m'aider à passer. » L'abbé serre le poignet du moribond. Lui aussi, il sait danser bord à bord avec le désir, mais en ce moment, ses pensées froissent de trop vieux linceul. Il n'est pas en état. Il songe au lit, à l'ER, à la mort, à l'énigme. Il ne capte pas toute la teneur des propos de Rousseau. Et l'ER, il peut aider ? Risque-t-il ? Ah, l'autre esquisse une moue. L'élégant fantôme ne l'a jamais vraiment quitté. Il a l'intention d'y revenir. D'un geste bref, doigt tendu et écarté, il invite simplement l'abbé à la patience. Pour l'instant, il traîne sous d'autres cieux. À Carthagène, à Marseille, à Istanbul, au Chat Noir, au Pachador, chez Maya, chez Clovis, chez César, ou peut-être, plus certainement, le long des allées blanches du cimetière d'Eyoub, où Léna repose, depuis longtemps maintenant, morte, disparue, au cœur d'un imperceptible hiver, tombée, par hasard, à 35 ans et des poussières à la renverse, du haut d'un balcon situé au 5e étage d'une résidence de luxe. C'est arrivé à 8 km d'Istanbul, sous des réverbères mauves. La fenêtre donnait sur une petite cour d'allée qu'on aurait cru douce comme de la moquette. La nuit où, attablé chez José de Oliveira à Barcelone, Nikos Kavadias décida de lui raconter en détail la fin tragique de Léna, Rousseau ne broncha pas. Il se contenta d'écouter et de pleurer dans son verre. Levant de temps à autre les yeux et l'index pour commander discrètement une nouvelle bouteille de rosé d'Espagne au serveur aux cheveux gominés. Quelque part, une horloge sonne 10 heures du soir. Une autre, puis une autre encore, puis une autre, répète alentour la même litanie. C'est à Lanlou, à Bréhec, à Plouézec. Dans la chambre, Rousseau traîne toujours dans des méandres d'aventure. Il flâne, il rôde, il continue de hacher ses phrases. À ses côtés, Inizan malaxe les os des défunts de son village natal. Tous deux rendent visite à leur mort. J'en trouve le rideau des brumes. Je vois l'Orient par la fente. La croix du Sud coupe par la mauve. Rousseau dialogue tout seul. Il change simplement le timbre de sa voix pour faire croire qu'il a un interlocuteur en face de lui. Dehors, la nuit est tombée. La brise d'ouest a encore forci, les premiers nuages rappliquent, les goélands volent en rase-motte au-dessus du bar. Le air est mort dans un tintamarre d'automne, un vacarme du tonnerre de Dieu, la folie crochait sous les ardoises, elle collait ses muqueuses à la laine de verre. Rousseau recherche de la salive, peu à peu, il reprend vie. Il dit que ce jour-là, au crépuscule de l'aube, le village était balayé par de sacrés paquets d'écume. En mer, les noyés sortaient la tête de l'eau. À terre, un homme égorgeait un bélier, un autre caressait le flanc de l'animal, récupérait le sang dans un bol. Bon sang, le voilà qui démarre. Inizan approche sa chaise. Du bout des doigts, il vérifie le contenu de la sacoche. L'huile bénite par l'évêque est bien là, à sa place, près du jeune homme taillé, les bras en croix dans du bois rouge d'Afrique. Pas le temps d'expliquer la provenance de cet objet. Rousseau a choisi de faire vibrer les turbines de sa mémoire. Inizan, suis-moi, car je vais aller très vite, très vite. La mort avançait ce matin-là, poussé par un vent de nord-nord-ouest soufflant à plus de 130 km par heure. Devant nous, le cadavérique, le air gisait. Imagine un long corps jaune dans des draps blancs. Sa maigreur faisait peur. Il fixait les fissures, le plâtre gaufré, le fil dénudé de l'ampoule. Aucun son ne sortait de ses lèvres. Il ouvrait la bouche, la fermait, comme un brochet qui réclame. On était quelques-uns autour du lit, une vague cousine, la seule, du reste, qui au sein de la famille ne l'ait jamais répudiée. Le professeur Karoff, accompagné d'un vieux chien, Micmac Ier, l'arrière-grand-père de l'actuel Micmac. Ton prédécesseur, le mat, arrivé à la hâte, la soutane tachée, extrayant à grand-peine ses 100 kilos d'une deux-chevaux fourgonnette conduite par une veuve de Minard. Le docteur était également fidèle au poste. Tous, alertés par la cousine, se sont pointés à tour de rôle aux aurores le 20 octobre 1978 dans la ferme du fond de la vallée où le R habitait depuis sa sortie de prison. Moi, je venais de passer la nuit entière au chevet de celui qui m'était devenu de plus en plus proche, comme ça, mine de rien, de fil en aiguille, va savoir comment. Comment deux paumés finissent par se reconnaître et sympathiser sous le couvert des goélands, au milieu des épaves, des ruines, des disparus partis mesurer le fond des océans avec leurs pauvres fémurs mis bout à bout en guise de chaînes d'arpenteurs. Rousseau interrompt son récit. Il s'éponge le front, saisit le poignet du prêtre, grimace, semble tomber en arrière et surpris, ne dissimulant nullement sa peur, se raccroche au drap. Quelques minutes se perdent. L'horloge les récupère. Elle seule rythme la nuit, l'agonie. Rousseau reprend. Je me souviens du premier jour où il a débarqué ici. C'était dans l'après-midi, à peu près 6 mois après la libération. Un calme plat régnait dans la salle. Je lisais le journal au bar quand un grand type du genre pélican triste et grisonnant est entré sans bruit. J'ai levé le nez, l'ai reconnu du premier coup. Il a souri et a commandé une bière. Je l'ai servi et prononcé 2 ou 3 phrases bancales. Il a répondu gentiment, a payé et reparti. Sa première visite n'avait pas duré un quart d'heure. Ensuite, il a pris l'habitude de revenir, pas tous les jours, mais de temps en autre, en choisissant les moments creux. Du bout de l'index, Rousseau dessine plusieurs plusieurs cercles devant lui. Inizan se tait. Il regarde les traits tirés de l'ancien marin. Celui-ci est en nage. Il relève les manches de sa veste de pyjama, laissant apparaître un tatouage coloré sur chacun de ses avant-bras. On a fini par se confier des choses. Lui, il évoquait la prison, et moi, la mer. C'est comme si nous étions de quart ensemble sur un bateau. Chacun fouillait dans ses poches ou dans ses souvenirs, c'est comme tu veux. À la différence près qu'en mer, on triture pratiquement tous les mêmes dentelles, alors qu'avec lui, les confidences restaient graves, pondérées. Il arpentait les ruelles de la solitude, scrutait les murs sales de sa tôle, respirait le moisi des pioles infectes en y ajoutant Dieu, la Bible, les prières, les offenses, la rédemption. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un pénitent de haute volée, une sorte de saint en bois polychromé, métamorphosé en être de chair et de sang, un type qui jamais ne s'était détourné de la foi et dont l'existence austère rappelait celle d'un moine. Enfermé, cloîtré, non pas dans un monastère, mais dans une cellule de tôlard. Le cabaretier tousse. Un dépôt jaunâtre se forme au coin de sa bouche. Il s'affaisse, enfonce à nouveau sa nuque dans l'oreiller. À 8 heures du matin, il s'est éteint, délivré du mal. L'expression collait comme un gant à son cadavre, mort avec sa dignité habituelle, bien que bouffé de l'intérieur, bien que souffrant le martyr depuis des semaines et des semaines dans ce lit que j'ai récupéré un peu plus tard, avant que le ferrailleur ne rapplique pour le charger avec d'autres reliques de la maison Leher. C'est comme un pacte flou entre lui et moi, d'une mort à l'autre, de la sienne à la mienne. Ce lit de rien du tout nous lie, nous relie. C'est idiot, n'est-ce pas? Cette lecture est terminée pour ce soir, et nous nous retrouverons donc demain. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.